À partir d'aujourd'hui, plus rien ne serait pareil. Et la capture de Randall Thorne n'était pas le plus grand bouleversement. Parmi les guerriers qui assaillaient les chariots, seule la taille permettait de distinguer rapidement les hommes des promises. Les voiles et les choufas dissimulaient les visages, et rien ne ressemblait plus à un Cadinsor qu'un autre Cadinsor, n'était quelques différences marquant l'appartenance à une tribu, à un clan ou à un ordre de guerriers. Les combattants qui se tenaient le plus loin du mur invisible semblaient désorientés, marmonnant entre eux comme s'ils attendaient que quelque chose se passe. Préparés à lutter contre les éclairs des Aes Sedai, voilà qu'ils se retrouvaient à poireauter, trop loin du cœur de l'action pour utiliser l'arc en corne, qu'ils n'avaient même pas encore sorti de l'étui accroché dans leur dos. Si ça ne tenait qu'à Sevana, ils n'auraient plus très longtemps à attendre. Les poings sur les hanches, elle s'adressa au matriarche.
« Celles qui se trouvent au sud, par rapport à moi, vont détruire la défense des Aes Sedai. Celles qui sont au nord, à l'attaque, en avant !»
Après avoir crié cet ordre, Sevana se tourna pour assister à l'anéantissement des Aes Sedai, qui croyait ne devoir affronter que des lances. Mais rien ne se produisit. Devant Sevana, les guerriers continuaient à piaffer en vain, et aucun son attourdissant ne retentit. À part le bruit occasionnel d'un embout de lance frappant une rondache, il n'y avait pas grand-chose à entendre, pour tout dire. Sevana s'emplit de colère, la tissant comme des fils sur un rouet. Elle aurait juré que les matriarches, après avoir vu le corps déchiqueté de Desaine, seraient prêtes à frapper les Aes Sedai. Si elles hésitaient toujours, elle les harcèlerait jusqu'à ce qu'elles se décident, les humiliant au point qu'elles finissent par demander à genoux d'enfiler la robe blanche des Gaishine. Soudain, une boule de feu grosse comme la tête d'un homme fendit le ciel en direction des chariots. Une autre suivit, puis ce fut un véritable bombardement. Son estomac se dénoua enfin, Sevana vit que d'autres projectiles jaillissaient de l'ouest, où se trouvaient Tevara et les autres. De la fumée s'éleva des chariots, d'abord par fines volutes, puis par colonnes noirâtres. Dans les rangs de guerriers, les murmures changèrent de ton, et si les derniers rangs ne bougèrent pas vraiment, il y eut un net mouvement général vers l'avant. Parmi les défenseurs, des hommes hurlaient de rage ou de douleur. Le mur invisible des Aes Sedai, quelle que fût sa nature, venait d'être abattu. La bataille commençait, et elle ne pourrait avoir qu'une issue. Bientôt, Randall Thorne serait à Sevana. Il mettrait tous les aïels à sa disposition, afin de conquérir les terres mouillées. Puis avant de mourir, il lui donnera des filles et des fils, histoire d'assurer sa succession. Althor étant très beau, très fort et en pleine jeunesse, cette partie du plan ne serait pas la plus désagréable. Sevana n'espérait pas que les Aes Sedai baissent rapidement en pavillon, et ce ne fut pas le cas. Leurs boules de feu embrasèrent des guerriers et des éclairs, tombant du ciel, en réduisirent d'autres en cendres. Peu habitués à canaliser le pouvoir, surtout quand il y avait un public pour les voir faire, les matriarches restaient très discrètes sur leurs dons. Pourtant, elles semblaient tirer très vite des leçons de ce qu'elles voyaient. À moins qu'elles aient toujours su, mais soient restées hésitantes. Quoi qu'il en fût, en réponse aux éclairs des Aes Sedai, une pluie de lances de lumière s'abattit du ciel sur les chariots. Tous ces projectiles n'atteignaient pas leur cible. Les boules de feu, désormais énormes, explosaient parfois en plein vol, et des éclairs semblaient à l'occasion détournés par un bouclier invisible. Dans le vacarme des détonations, des cris et des hurlements montaient de toutes parts. Ravie, Sevana contemplait le ciel. Tout ça lui rappelait la description des feux d'artifice des illuminateurs qu'elle avait lus un jour. Soudain, une lumière blanche l'aveugla et elle eut le sentiment de dériver dans le vide. Quand elle y vit de nouveau, elle était étendue sur le sol, à 10 bons pas de l'endroit où elle se trouvait à l'origine, tous ses muscles lui faisant un mal de chien. Couverte de poussière de la tête aux pieds, elle luttait pour respirer et garder dans ses poumons l'air qu'elle parvenait à inhaler. Autour d'un grand trou au bord d'Ichikté, d'autres matriarches gisaient sur le sol, et de la fumée montait de leurs vêtements. Toutes les femmes n'étaient pas touchées, puisque la bataille continuait dans le ciel, mais beaucoup étaient, pour l'instant, hors d'état de combattre. Sevana allait devoir les renvoyer au cœur de la danse. La respiration toujours douloureuse, elle se redressa péniblement, et ne prit pas la peine de s'épousseter.
« En avant !»
Prenant Estalaine par les épaules, elle voulut la forcer à se relever. Au regard bleu voilé de la matriarche, elle comprit cependant que celle-ci était morte. Passant à Doraïa, elle la remit debout, puis s'empara de la lance d'un marche-tonnerre mort et la brandit au-dessus de sa tête.
« En avant, les lances !»
Quelques matriarches prirent l'ordre au pied de la lettre et se jetèrent en avant. Gardant la tête froide, d'autres aidèrent les survivantes à se relever, puis elles reprirent le bombardement de boules de feu et d'éclairs.
« En avant, les lances !» passe ?
Répéta Sevana en passant devant les rangs d'Aiel. Prise d'une folle envie de rire, elle n'y résista pas. Alors qu'elle était couverte de poussière, au cœur d'une bataille, elle ne s'était jamais sentie d'une humeur aussi joyeuse. Presque de quoi lui faire regretter de ne pas avoir choisi de devenir une promise. Presque. Une Farda Reismaï ne pouvait pas devenir chef de tribu. Dans le même esprit, aucun homme ne pouvait prétendre accéder au statut de matriarche. Pour pouvoir accéder au pouvoir, une promise devait renoncer à la lance et tenter de devenir une matriarche. Étant l'épouse d'un chef de tribu, Sevana avait manié le pouvoir à l'âge où une promise était à peine autorisée à porter une lance, et une future matriarche, encore apprentie, à aller chercher de l'eau avec un seau. À présent, Sevana était à la fois une matriarche et une chef de tribu, même si elle avait encore quelques efforts à fournir pour se gagner ce titre-là. Mais qu'importaient les honneurs, lorsqu'on avait le pouvoir? Cela dit, pourquoi se priver de jouir des deux, quand on en avait l'occasion? Un cri la forçant à se retourner, Sevana blêmit, en voyant qu'un loup est en train d'égorger Docera avec ses crocs. D'instinct, elle plongea sa lance dans le flanc de l'animal. Alors qu'il se contorsionnait pour mordre la hampe de l'arme, un autre loup, encore plus énorme, vola à côté de Sevana pour atterrir sur le dos d'un guerrier. Partout où elle regarda, la veuve de Kouladine vit des hommes en train de succomber sous les assauts des bêtes sauvages. Une peur panique la submergeant, Sevana dégagea sa lance du cadavre. Les Aes Sedai avaient appelé des loups en renfort. Les yeux rivés sur la bête qu'elle venait d'abattre, Layel se répéta cette pensée. « Les Aes Sedai ont appelé des loups au secours !»« Non, non, ça ne changerait rien. Elle ferait en sorte que ça ne change rien. » Quand elle put enfin détourner les yeux de la dépouille, Sevana voulut crier des encouragements aux matriarches survivantes. Mais quelque chose en empêcha, lui coupant le souffle. Des cavaliers des terres mouillées, équipés d'un casque rouge et d'un plastron assorti, jouaient de l'épée et de la lance au milieu des guerriers Shaido. D'où sortait-il cela? Quand Rial lui répondit, Sevana comprit qu'elle avait parlé à voix haute.
« J'ai essayé de t'en parler, mais tu ne m'as pas écouté. »
Sevana regarda avec dégoût la lance ensanglantée qu'elle tenait. Les matriarches n'étaient pas censés toucher aux armes. Imitant un geste qu'elle avait souvent vu faire au chef, elle appuya l'arme dans le creux de son bras, tandis que Rial reprenait.
« Des hommes des terres mouillées ont attaqué depuis le sud, avec des Sisoyaman. »
Rial avait prononcé ce nom avec tout le mépris convenant aux chiens qui se nommaient eux-mêmes les Lances du Dragon.
« Il y avait aussi des promises et des matriarches. Qui se battent ?»
demanda Sevana avant de mesurer l'étendue de sa bévue. Si elle était capable de mettre au rebut des coutumes dépassées, les idiotes aveugles qui osaient se donner encore le nom d'Aiel dans le camp ennemi pouvaient le faire aussi. Cela dit, elle ne s'y attendait pas. Sans nul doute, c'était l'œuvre de Sorilea. Quand elle pensait à cette vieille folle, Sevana avait aussitôt en tête l'image d'une avalanche qui emportait tout sur son passage.
« Nous devons attaquer ces renforts. Ils n'auront pas Randaltor !»
Voyant Rial écarquiller les yeux, Sevana ajouta à la hâte.
« Et ils ne nous empêcheront pas de venger Desain. Ce sont des matriarches !»
dit Rial d'un ton sans appel. Sevana comprit, et de la bile monta aussitôt à sa gorge. Participer à une bataille était déjà un blasphème, mais lancer des matriarches contre d'autres matriarches était plus que Rial n'en pouvait supporter. Convenant qu'il n'y avait pas d'autre solution pour persuader les matriarches et les guerriers d'attaquer les Aes Sedai, une démarche incontournable pour avoir Altor entre leurs mains, puis régner sur tous les Aiel, Rial avait accepté la condamnation à mort de Desain. Mais cette exécution avait lieu en secret, avec pour complices et témoins des femmes qui partageaient cette analyse. Là, tout se passerait au grand jour.
« Des lâches et des crétins, tous ces minables. Si tu vois les choses comme ça, va affronter les ennemis qui te paralysent pas, Rial. »
Chaque mot contenait tout le mépris du monde, mais Rial se contenta de hocher la tête et d'ajuster son châle. Après un dernier regard désapprobateur sur la lance de Sevana, elle reprit sa place dans les rangs de matriarches. Il y avait peut-être un moyen de forcer les matriarches d'en face à bouger les premières. Il aurait été préférable d'attaquer par surprise, mais tout valait mieux que de voir Randaltor tomber entre les mains de ses femmes. Sevana aurait donné n'importe quoi pour avoir avec elle une femme capable de canaliser qui lui obéirait sans discutailler. Ou pour être au sommet d'une colline, d'où elle aurait pu suivre le déroulement de la bataille. Lance brandie, un œil en permanence sur les loups, ceux qui n'étaient pas morts continuaient de tailler en pièces des hommes et des femmes en Kaldinsor, Sevana recommença à crier des encouragements à ses troupes. Au sud, les Shaido subissaient un bombardement d'éclairs et de boules de feu plus denses qu'avant, mais ça ne semblait pas faire une énorme différence. Avec ses explosions, ses flammes, ses gerbes de terre et de corps déchiquetés, La bataille continuait à faire rage.
« En avant, les lances !»
cria Sevana en brandissant son arme.
« En avant !»
Parmi les guerriers adverses, elle n'avait pas encore distingué de Sisoyaman, ces abrutis qui se nouaient un bandeau rouge autour du front en l'honneur du dragon réincarné. Étaient-ils trop nombreux pour avoir une influence sur le cours des événements? En tout cas, les groupes de soldats des Terres Mouillées semblaient moins denses et coupés les uns des autres. Sous les yeux de Sevana, un de ces groupes fut littéralement submergé, hommes comme chevaux, par une marée de lances.
« En avant ! En avant !»
La voix de Sevana vibrait d'excitation. Même si les Aes Sedai avaient appelé 10 000 loups à la rescousse, Sorilea venant avec 1000 matriarches et 100 000 guerriers, les Shaido remporteraient la victoire en ce jour glorieux. Les Shaido et leur chef, Sevana du clan Jumai, un nom qui resterait dans l'histoire à tout jamais. Soudain, une explosion différente, plusieurs tons plus graves, retentit au milieu du vacarme. Sevana détermina assez vite qu'elle s'était produite à l'intérieur du cercle de chariots, mais sans pouvoir dire si c'était l'œuvre des sœurs ou des matriarches Shaido. Détestant depuis toujours les énigmes, elle se garda pourtant d'interroger Rial ou une autre femme et de trahir ainsi son ignorance. Sans parler de son manque d'aptitude pour le pouvoir, alors qu'elle se trouvait au milieu de femmes qui le contrôlaient. En soi, ça ne menaçait en rien ses plans, mais dans la liste de ce qu'elle abominait, il y avait aussi les dons que d'autres détenaient et qu'elle n'avait pas. Du coin de l'œil, elle capta une lumière hésitante, parmi les algues Sisoy, à croire que quelque chose est en train de changer. Mais quand elle tourna franchement la tête pour regarder, elle ne distingua rien du tout. Une nouvelle fois, une lumière frémit à la périphérie de sa vision. Là encore, quand elle voulut voir de quoi il s'agissait, il n'y eut rien à découvrir. Décidément, il y avait trop de choses qu'elle ne parvenait pas à comprendre. Criant toujours des encouragements, Sevana étudia les rangs de matriarches. Leurs vêtements maculés de poussière ou carrément roussis, plusieurs femmes avaient perdu leur foulard, laissant leurs longs cheveux pendre librement dans leur dos. En piteux état, elles allaient cependant bien mieux que les 10 malheureuses qui gisaient sur le sol et gémissaient de douleur. Un peu à l'écart, Sevana dénombra 7 corps immobiles, le visage recouvert par leur châle. Mais seules les femmes toujours sur leurs jambes l'intéressaient. Rial, Alaris, sa magnifique crinière noire en désordre, Somérine, son chemisier généreusement ouvert, ainsi qu'elle en avait pris l'habitude, afin de rivaliser avec l'audacieux décolleté de la veuve de Kouladine. Meira, l'air plus sinistre encore que d'habitude. Thion, aussi charpentée que Béline était squelettique. Enfin, Modara, aussi grande que bien des hommes. Si elles avaient tenté quelque chose de nouveau, une de ces 7 femmes en aurait informé Sevana, car la vérité au sujet de Desain les liait à elle. Même pour une matriarche, un tel crime aurait pour conséquence une vie entière de souffrance, et pire encore, de honte, afin de récupérer son taux. Voir un bannissement, sans vêtements ni vivre, dans une région sauvage, avec pour perspective de survivre ou de crever seul, et d'être abattu à vue par n'importe qui l'apercevant. Même dans ces conditions, Sevana aurait juré que Rial et les 6 autres prenaient un malin plaisir, comme toutes les autres matriarches, à lui cacher des choses. En particulier celles qu'elles avaient apprises durant leur formation, et lors de leur séjour à Ruidéan. Il faudrait prendre des mesures contre cette tendance, mais ce n'était pas le moment. Si elle avait posé des questions, Sevana aurait trahi sa faiblesse. Observant de nouveau la bataille, elle découvrit que l'espoir avait changé de camp, pour basculer dans le sien, semblait-il. Au sud, la pluie d'éclairs et de boules de feu continuait avec la même violence, mais ce n'était plus le cas droit devant elle, au nord et à l'ouest. Les projectiles visant les chariots explosaient toujours en vol, le plus souvent en tout cas, mais la résistance des Aes Sedai faiblissait. Sevana allait gagner. Alors que cette idée lui traversait l'esprit, aussi flamboyante qu'une comète, les Aes Sedai baissèrent enfin les bras. À part au sud, les bombardements avaient cessé. Prête à crier de joie, Sevana fit une autre constatation, qui l'incita à se retenir. Des éclairs et du feu s'abattaient toujours sur les chariots, mais ils ricochaient contre un obstacle invisible. La fumée qui montait des chariots dessina les contours d'une sorte de dôme, puis elle commença à s'évacuer par ce qui devait être un trou ménagé au sommet de l'étrange structure. Sevana se tourna vers les matriarches, son expression si furieuse que plusieurs femmes reculèrent d'instinct, à moins que ce soit à cause de la lance. Elle devait avoir l'air prête à l'utiliser, et c'était exactement son état d'esprit.
« Pourquoi les avez-vous laissé faire ça? Vous deviez les neutraliser. leur interdire d'ériger de nouvelles défenses.
Blême comme si elle allait vomir, Tion plaqua pourtant les poings sur les hanches et regarda Sevana droit dans les yeux.
Ce n'est pas l'œuvre des Aes Sedai. Vraiment? De qui d'autre alors? Les matriarches adverses? N'avais-je pas dit qu'il fallait les attaquer? Ce ne sont pas des femmes qui...
souffla Rial.
Pas des femmes.
Sevana se tourna lentement vers le dôme et prit une grande inspiration. En état de choc, elle avait un moment oublié de respirer. Un objet venait de sortir à l'air libre par le trou d'évacuation de la fumée, un des étendards des terres mouillées. La fumée n'étant pas assez noire pour le dissimuler, Sevana distingua un disque noir et blanc sur fond écarlate, le symbole que les six Wayaman arboraient sur leurs bandeaux. En d'autres termes, celui de Randaltor. Avait-il réussi à se libérer, à vaincre les Aes Sedai et à faire léviter cet étendard? Pouvait-il être puissant à ce point? Les éclairs et les flammes continuaient à marteler le dôme, mais Sevana entendit des murmures dans son dos. Les autres femmes envisageaient de battre en retraite. Peut-être, mais pas elles. Depuis toujours, elles savaient que le chemin le plus facile et le plus court vers le pouvoir consistait à séduire les hommes qui le détenaient. Même enfant, elles n'avaient jamais douté d'être nées avec les armes qu'il fallait pour mener ce plan à bien. Souladric, le chef des Shaido, avait succombé alors qu'elle avait à peine 16 ans. Après son veuvage, elle avait choisi ses successeurs les plus probables. Bien entendu, Mouradine et Kouladine étaient tous deux convaincus d'être l'unique objet de sa passion. Après que Mouradine eut disparu à Ruidéan, comme tant d'autres hommes, un sourire avait suffi à persuader Kouladine qu'il l'avait subjuguée. Mais que pesait le pouvoir d'un chef de tribu face au Karakarn? Et la puissance qui attendait Sevana serait 10 fois supérieure. Sevana frissonna comme si elle venait de voir le plus bel homme du monde sous une tente bain de vapeur. Quand Randaltor serait sien, elle pourrait conquérir le monde.
« En avant! Allons les lances! Au nom de Desaigne, humilions ces Aes Sedai !»
Et Randaltor ne lui échapperait pas. Soudain, un rugissement monta de la ligne de front, des cris d'hommes. Furieuse de ne pas voir ce qui se passait, Sevana hurla au matriarche de redoubler leurs efforts. Mais il lui sembla que le bombardement sur le dôme perdait de l'intensité. Quelque chose qu'elle put voir se produisit alors. Non loin des chariots, des gerbes de terre et de lambeaux de corps jaillirent dans les airs. Pas à un seul endroit, mais sur tout le périmètre. Puis les explosions dessinèrent autour des chariots plusieurs cercles concentriques plus meurtriers les uns que les autres. Partout, des guerriers et des promises mouraient déchiquetés, avant même d'avoir compris ce qui se passait. Les aïels encore à l'extérieur de ce périmètre mortel se débandèrent. Quand les premiers fuyards passèrent à côté d'elle, Sevana les frappa avec sa lance, se fichant que le fer se couvre peu à peu de sang.
« Retournez vous battre, pour l'honneur des Shaido !»
Les lâches continuèrent à fuir.
« N'avez-vous aucun honneur? Au combat !»
Sevana enfonça le fer de sa lance dans le dos d'une promise. La femme s'écroula, mais ses compagnons d'infamie la piétinèrent. Du coin de l'œil, la veuve de Kouladine vit que certaines matriarches avaient déserté aussi. D'autres étaient en train d'aider les blessés à se relever afin de les entraîner dans la fuite. Voyant que Rial tournait aussi les talons, Sevana lui saisit le bras et la menaça avec sa lance.
« Il faut continuer! Nous pouvons toujours avoir Altor! Si nous restons, ce sera la mort !»
répondit Rial, folle de peur.
« Ou nous finirons enchaînés devant la tente d'Altor! Combat et meurs si ça te chante, Sevana! Je ne suis pas un chien de pierre !»
Rial dégagea son bras et détala. Un moment, Sevana resta où elle était, tandis que des hommes et des femmes paniquées passaient à côté d'elle, la bousculant parfois. Puis elle lâcha sa lance et posa une main sur sa bourse, où était rangé un petit cube de pierre orné de sculptures sophistiquées. Dire qu'elle avait failli le jeter, mais elle s'en était abstenue. Il lui restait ainsi une autre corde pour son arc. Relevant l'ourlet de ses jupes, elle se joignit aux fuyards. Mais contrairement à eux, elle ne céda pas à la terreur et entreprit d'ourdir de nouveaux plans. Randaltor finirait par se prosterner devant elle, et les Aes Sedai aussi. Alviarin sortit enfin des appartements d'Elaïda. Aussi calme et maîtrisée que d'habitude, à l'extérieur, elle se sentait en réalité vidée de ses forces. Pourtant, elle parvint à descendre d'un pas assuré les marches, en marbre, même à cette hauteur, du long escalier en colimaçon. Des domestiques affairés, comme il convenait, s'inclinèrent sur le passage de la gardienne des chroniques, drapée dans toute sa sérénité d'Aes Sedai. Dans les niveaux inférieurs, Alviarine commença à croiser des sœurs, beaucoup portant un châle aux franges à la couleur de leur haja. Une façon, peut-être, de souligner qu'elles étaient de vraies sœurs. Presque toutes regardèrent la gardienne au passage, avec un certain malaise le plus souvent. La seule qui l'ignora étant Danelle, une sœur marron connue pour avoir la tête dans les nuages. Elle avait participé au remplacement de Suan Sanche par Elaïda, mais en permanence perdue dans ses pensées, une solitaire qui n'avait pas d'amis, y compris dans son aja, elle ne semblait pas s'être aperçue qu'on l'avait depuis écartée du pouvoir. Les autres sœurs n'étaient pas si têtes en l'air, loin de là. Mince, le regard dur, Berisha était allée jusqu'à se fendre d'une révérence en croisant la gardienne. Les cheveux blonds et les yeux bleus, des caractéristiques assez rares chez les terriennes, Kera avait imité sa compagne d'Aja. Pourtant, comme toutes les sœurs vertes, elle avait une tendance marquée à l'arrogance. Norine Dovarna avait fait mine de s'incliner avant de se raviser. Presque aussi distraite que Danelle à l'occasion, cette femme aux grands yeux gardait une solide rancune à Alviarine. Puisque la gardienne avait été choisie parmi les sœurs blanches, elle estimait qu'il aurait dû s'agir d'elle. Les sœurs n'étaient pas tenues de s'incliner devant la gardienne. Mais Berisha et Kera espéraient que celle-ci puisse intervenir en leur faveur auprès d'Elaïda, si besoin était. Les autres sœurs semblaient simplement se demander quels ordres Alviarine venait de recevoir. Quelle Aes Sedai serait punie aujourd'hui pour avoir déplu à la chair d'Amerline? Sauf en cas de convocation, les sœurs rouges elles-mêmes évitaient de s'aventurer à moins de 5 niveaux des appartements de la dirigeante. Et quand elle en descendait, bien des Aes Sedai n'hésitaient pas un instant à se cacher. Il flottait dans l'air une tension qui n'avait rien à voir avec les renégates, ou les hommes capables de canaliser le pouvoir. Plusieurs sœurs tentèrent de parler à Alviarine. Polie mais ferme, elle s'en éloigna en silence, remarquant à peine l'angoisse qui voilait leurs regards. Comme elle, la gardienne avait l'esprit entièrement occupé par Elaïda, une personne très complexe, vraiment. Au premier coup d'œil, on voyait une très belle femme, tout en réserve et en retenue. Au second, on découvrait une dirigeante dure comme l'acier et aussi dangereuse qu'une lame d'épée. Là où d'autres auraient recouru à la persuasion, elle passait en force, toujours disposée à écraser ses adversaires plutôt que de faire appel à la diplomatie ou au grand jeu. Quiconque la connaissait était convaincu de son intelligence, mais au fil du temps, on finissait par découvrir que cette femme, pourtant dotée d'un esprit brillant, voyait exclusivement ce qu'elle était disposée à voir, et ne reculait devant rien pour imposer aux autres ce qu'elle considérait comme la vérité. Son taux de réussite, très élevé dans ce domaine, était effrayant, mais beaucoup moins que son don de prédiction. Un don qui se manifestait peu souvent, devenant ainsi trop facile à oublier. Sa dernière prédiction remontait à si longtemps qu'Alviarine, un peu plus tôt, avait eu le sentiment d'être frappée par la foudre. Mais c'était ainsi. Et Elaïda comprise, personne ne pouvait prévoir quand ça arriverait, et encore moins de quelle nature serait la prédiction. Après cette expérience traumatisante, Alviarine avait la sensation que l'ombre de la chair d'Amerline la suivait dans les couloirs. Un jour, il faudrait peut-être la tuer. Si on devait en venir là, ce ne serait pas la première exécution secrète d'Alviarine. Mais elle hésitait à franchir ce pas sans en avoir reçu l'ordre, ou au moins la permission. Quand elle entra chez elle, la gardienne éprouva un profond soulagement, comme si l'ombre d'Elaïda n'avait pas été en mesure de la suivre. Mais si la chair d'Amerline soupçonnait quelque chose, 1000 lieues n'auraient pas pu l'empêcher de sauter à la gorge de sa gardienne. Et Elaïda devait penser qu'Alviarine allait se mettre au travail, rédigeant des ordres et des décrets afin qu'elle y appose sa signature et son sceau. Mais parmi ces ordres, lesquels seraient exécutés? Eh bien, ça restait à décider. Pas par Elaïda, et pas non plus par la gardienne. Les appartements, dotés d'un balcon donnant directement sur la grande esplanade de la tour, étaient composés de pièces plus petites que les autres. De temps en temps, Alviarine sortait sur ce balcon pour contempler Tarvalon, la plus belle cité du monde, où se pressaient des centaines de milliers de gens pas plus importants que des pierres sur un plateau de jeu. En bois clair incrusté de perles et d'ambre, les meubles provenaient de l'Arad Doman, comme les tapis aux couleurs vives et aux motifs floraux ou géométriques et les tapisseries, plus tape à l'œil encore, qui représentaient des paysages semés de fleurs où des cerfs broutaient paisiblement. Tout ça appartenait à l'ancienne occupante des lieux. Peu encline à perdre du temps en futilité, Alviarine n'avait jamais choisi autre chose. De plus, ce décor lui rappelait le prix très élevé de l'échec. Impliquée dans des plans complexes, Léane Sharif avait failli. À présent, coupée à tout jamais de la source, elle n'était plus qu'une femme errante dépendant de la charité des autres. Condamnée à une vie misérable, jusqu'à ce qu'elle se décide à y mettre fin, ou à se recroqueviller dans un coin et à se laisser mourir. Quelques femmes calmées, racontait-on, avaient réussi à survivre. Avant d'y croire, Alviarine attendra d'en avoir rencontré une. Et ça ne figurait pas sur la liste des choses dont elle avait envie. Alors que la vive lumière du début d'après-midi entrait par les fenêtres, Alviarine n'eut pas le temps de traverser la moitié de son salon, avant qu'un étrange crépuscule l'enveloppe. Ce phénomène ne l'étonnant pas, elle se retourna et se laissa tomber à genoux.
« Grande maîtresse, je vis pour servir. »
De haute taille, davantage semblable à une ombre qu'à une femme, mais dotée d'yeux et de lèvres d'argent, Messa Anna se tenait devant la gardienne.
« Dis-moi ce qui s'est passé, mon enfant. »
Toujours agenouillée, Alviarine répéta chaque mot prononcé par Elaïda, et tant pis si elle doutait que ce soit nécessaire. Au début, elle oubliait certaines phrases sans importance. Et immanquablement, Messa Anna s'en apercevait, elle savait tout à l'avance, exigeant d'entendre chaque mot et de se faire décrire jusqu'au moindre geste ou tic facial. À l'évidence, elle espionnait les rencontres entre la chat de Merlin et sa gardienne. Alors, où était la logique là-dedans? Alviarine avait en vain essayé de comprendre. Pourtant, certaines choses obéissaient à la logique, non? Elle avait rencontré d'autres élus, ceux que des fous appelaient les rejetés. Lanfear et Graendal étaient venus à la tour. Sûrs de leur force et de leur supériorité intellectuelle, toutes deux avaient clairement fait comprendre à Alviarine qu'elle n'était qu'une souillon chargée d'accomplir des corvées, et instamment priée de sourire si on daignait par le plus grand des hasards la gratifier d'un mot gentil. Belal avait enlevé Alviarine en pleine nuit, alors qu'elle dormait, l'emmenant elle ne savait toujours pas où. Elle s'était ensuite réveillée dans son propre lit, un détail qui l'avait davantage terrifiée que la présence en face d'elle d'un homme capable de canaliser. Pour lui, elle n'était même pas un ver de terre, pas une créature vivante, mais une pierre sur un plateau de jeu qu'il pouvait déplacer à sa guise. Des années avant les autres, Ishamael l'avait extraite de la masse dissimulée dans l'ombre des membres de l'âge noir pour la placer à leur tête. Devant chacun des élus, elle s'était prosternée, clamant du fond du cœur qu'elle vivait pour servir. Elle avait obéi à tous les ordres, quels qu'ils soient. Après tout, ils étaient juste au-dessous du grand seigneur des ténèbres, et si elle aspirait à la récompense suprême, l'immortalité dont il semblait déjà bénéficier, se montrer docile ne pouvait pas faire de mal. Oui, elle s'était agenouillée devant tous, et seule Messa Anna lui était apparue avec un visage inhumain. Ce manteau d'ombre et de lumière argentée devait être tissé avec le pouvoir de l'unique, même si la gardienne ne parvenait pas à distinguer les flux. En présence de Lanfear et de Graendal, elle avait immédiatement senti qu'elle n'était pas de taille à les défier, en matière de pouvoir. Face à Messa Anna, elle n'avait rien senti du tout, comme si cette femme était tout à fait incapable de canaliser le pouvoir. Dans ce cas-là, raisonner logiquement n'était guère ardu. Si Messa Anna se cachait, c'était parce qu'on risquait de la reconnaître. Donc, elle devait vivre à la tour. À première vue, ça semblait impossible, mais il n'y avait pas d'autre explication. Comme elle ne devait guère avoir de goût pour les corvées, il ne pouvait pas s'agir d'une domestique. Par conséquent, c'était une des sœurs. Mais laquelle? Avant qu'Elaïda sonne le rappel, bien des sœurs avaient vécu loin de la tour pendant des années. Et parmi elles, beaucoup n'avaient pas d'amis, qu'elles soient proches ou éloignées. Mais Saana devait être l'une de celles-là. Alviarine aurait donné cher pour connaître la vérité. Même quand on ne pouvait rien en faire, le savoir était la source du pouvoir.
« Notre Elaïda a fait une prédiction, »
dit Messa Anna, de sa voix musicale comme un carillon. Alviarine s'avisa soudain qu'elle venait d'achever son rapport. Ses genoux la mettaient à la torture, mais elle n'était pas assez idiote pour se relever sans permission. Un index obscur tapota des lèvres argentées. Une sœur avait-elle un tic de ce genre?
Ne trouves-tu pas étrange qu'elle ait été à la fois si claire et si confuse? Ce don a toujours été rare, et ses détentrices s'exprimaient d'une façon que seuls les poètes pouvaient comprendre, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour que ça serve à quelque chose en tout cas. À ce moment-là, tout devient limpide en général.
Alviarine resta muette. Les élus ne dialoguaient jamais, se contentant de donner des ordres ou de formuler des exigences.
Des prédictions intéressantes. Les renégates qui explosent. Comme une pastèque trop mûre. C'est bien ce qu'elle a dit. Je crois, grande maîtresse. Mais je n'en suis pas sûr.
Messa Anna haussa les épaules.
Quels que soient les détails, c'est une bonne nouvelle pour nous. Elaïda est dangereuse, grande maîtresse. Son don pourrait lui permettre de révéler ce qui devrait rester dans l'ombre. Quoi donc?
Demanda Messa Anna avec un rire cristallin.
Toi, tes sœurs de l'âge noir? Où penses-tu à ma sécurité? Parfois, tu es une brave fille, petite. »
L'élu semblait sincèrement amusé. Alviarine sentit qu'elle rougissait. Avec un peu de chance, Messana prendrait ça pour de la honte, pas pour de la rage.
« Suggères-tu qu'Elaïda soit éliminée du jeu, mon enfant ?»« C'est trop tôt. Elle est toujours très utile et le restera jusqu'à ce que Randaltor soit ici. Voir après, qui sait. Rédige ses ordres et fais en sorte qu'il soit exécuté. La regarder jouer son petit jeu est franchement distrayant. Par moments, vous êtes presque aussi drôle que les Aja, elle et toi. Réussira-t-elle à faire enlever le roi de Liliane et la reine du Saldaïa ? Les Aes Sedai étaient coutumières de ces forfaits, pas vrai ? Mais ça remonte à au moins 2000 ans. Qui tentera-t-elle d'asseoir sur le trône de Kaerien ? La perspective de devenir roi en Théar fera-t-elle oublier au haut seigneur Darlin la répugnance que lui inspirent les Aes Sedai ? Ou notre Elaïda s'étranglera-t-elle d'abord de frustration ? Dommage qu'elle ait repoussé l'idée de lever une grande armée. Avec son ambition, j'aurais cru qu'elle sauterait sur cette possibilité.
L'entrevue touchait à sa fin. Ces rencontres, jamais très longues, duraient le temps qu'il fallait à Alviarine pour faire son rapport et recevoir de nouveaux ordres. Mais là, elle avait une question à poser.
« La tour noire, grande maîtresse. »
Alviarine sumecta les lèvres. Depuis qu'Ishamael lui est apparu pour la première fois, elle avait appris tant de choses sur les élus, en particulier qu'il n'était ni omniscient ni omnipotent. Elle était devenue chef de la Janoire parce que Ishamael, fou de rage, avait tué Jarna Malari, la dirigeante précédente, lorsqu'il avait découvert ce qu'elle venait de commencer. Pourtant, ce plan n'avait été abandonné que 2 ans plus tard, après la mort d'une seconde chère d'Amerline, Sierin Vayou. Alviarine se demandait souvent si Elaïda avait joué un rôle dans la fin de cette femme. En tout cas, la Janoire n'y était pour rien. Jarna avait pressé comme un citron la chair d'Amerline précédente Sierin, Tamra Ospenia, et après avoir recueilli assez peu de jus, finalement, elle lui avait donné l'apparence d'une femme morte dans son sommeil. Alviarine et les 12 autres sœurs noires du Conseil suprême avaient atrocement souffert avant de réussir à convaincre Ishamael qu'elle n'était pas impliquée dans cet assassinat. S'il n'était pas tout puissant et ne savait pas tout, les élus avaient parfois des connaissances que personne d'autre ne détenait. Et face à eux, poser une question pouvait toujours être dangereux. Surtout, pourquoi ? Sans doute ce qu'ils détestaient le plus.
« Grande maîtresse, envoyer 50 sœurs régler le problème est-il une décision prudente ?»
2 yeux brillants comme des lunes jumelles se rivèrent sur Alviarine, qui frissonna de la tête aux pieds. Le sort de Jarna lui revint en mémoire. Officiellement membre de la Jagri, elle n'avait jamais témoigné le moindre intérêt au Terran Gréal dont personne ne connaissait l'utilité, jusqu'au moment où elle s'était retrouvée coincée dans l'un d'entre eux, que nul n'avait étudié depuis des siècles. À ce jour, la façon de l'activer restait d'ailleurs un mystère. 10 jours durant, il avait été impossible de la libérer, et ses cris avaient retenti dans toute la tour. Les sœurs la jugeant presque unanimement comme un modèle de vertu, toutes celles qui étaient présentes à Tarvalon, plus celles qui avaient pu arriver à temps, avaient assisté à l'incinération de ses pitoyables restes.
« Tu es un esprit curieux, mon enfant. Bien orienté, la curiosité peut être un atout. Mal dirigé. »
La menace implicite plana dans l'air comme une épée étincelante.
« Je l'orienterai selon tes ordres, grande maîtresse. »
croassa Alviarine, la bouche sèche comme du vieux parchemin.
« Sans jamais déroger à cette règle. »
La gardienne veillerait quand même à ce qu'aucune sœur noire ne ferait avec Tovein. Mais Saana avança, si grande qu'Alviarine dut incliner la tête en arrière pour voir son visage d'ombre et de lumière. Brusquement, elle se demanda si les élus pouvaient lire ses pensées.
« Si tu veux me servir, mon enfant, il faut n'obéir qu'à moi. » Pas à ce mirage, à Demandred ou à Grindal, uniquement à moi, et au grand seigneur, bien entendu, mais à part lui, à personne d'autre que moi. Je vis pour te servir, grande maîtresse,
fit Alviarine d'une voix tremblante. C'était tout juste si elle avait eu la force d'ajouter le « te » à sa phrase originelle.
Très bien,
dit Messana après un long silence.
Dans ce cas, je t'apprendrai. Mais souviens-toi qu'un élève n'est pas un professeur. C'est moi qui décide qui apprend quoi et qui détermine dans quelles circonstances ce savoir doit être mis à contribution. Si je découvre que tu en as transmis ou utilisé le plus petit fragment sans mon autorisation, je te détruirai. »
Alviarine réussit à s'humidifier de nouveau la bouche. Il n'y avait pas de colère dans la voix musicale de Messana, mais simplement une tranquille détermination.
« Grande maîtresse, je vis pour te servir et t'obéir. »
Le savoir, c'était le pouvoir. Une nouvelle leçon qu'Alviarine venait d'apprendre des élus.
« Tu as un peu de puissance, mon enfant. Rien d'extraordinaire,
mais ça suffira. » Un tissage apparut entre les deux femmes.
« On appelle ça un portail. »